Chers auditeurs et chères auditrices, nous commençons une nouvelle série et nous sommes donc à l'étude numéro 1. Et le titre pour aujourd'hui, ça sera l'importance de la louange. Chers amis, s'il vous plaît, veuillez soigneusement noter les indications bibliques afin que vous puissiez, premièrement, contrôler que ce qu'on vous dit est bien la sainte parole de Dieu. Et deuxièmement, pour que vous puissiez de temps à autre relire les indications bibliques que vous aurez notées parce que ça peut rendre service. Il me semble parfois que la louange est le plus grand thème de la Sainte Bible. Elle jouera assurément un grand rôle dans les cieux. La louange a été établie comme un mode de vie pour les vivants et pour ceux qui sont entrés dans le repos du Seigneur. Nous pourrions écrire de nombreux livres sur cet unique sujet. Notre but est de toucher votre cœur et de vous encourager à étudier en profondeur vous-même ces vérités. Toutefois, regardons ce que nous dit la Sainte Parole de Dieu à ce sujet-là pour établir un rapport bref mais efficace de la toute-puissance de cette merveilleuse possibilité qui est la louange. La première à introduire la louange dans la Sainte Bible n'est autre qu'une personne qui s'appelait Léa. C'est l'épouse méprisée et rejetée de Jacob, un important patriarche. Elle savait qu'elle n'était pas aimée de son mari. Par conséquent, elle chercha à gagner son affection par tous les moyens humainement possibles. Elle lui enfanta tout de même 3 fils, Ruben, Siméon et Lévi. Mais son mari ne lui prêtait toujours que peu d'attention en dehors de son devoir conjugal envers elle. Puis, elle eut son 4e fils et elle l'appela Judas. Oh, rien de commun avec celui qui a trahi le Seigneur. Mais ce Judas-là, cela signifiait la louange. Et elle dit, « Cette fois, oui, je louerai l'Éternel. » Genèse chapitre 29, verset 35. La plupart d'entre nous attendons d'avoir gagné la bataille avant de louer l'Éternel. C'est très bien, mais c'est insuffisant. La louange doit s'utiliser comme plan de bataille pour la victoire et non pas comme le résultat de cette victoire. Les louanges de Léa lui ont acquis la victoire qu'elle désirait ardemment. Elle survécut à sa sœur de nombreuses années et ainsi elle a eu l'honneur d'être même enterrée à côté de son mari Jacob. Oui, c'est vrai, c'est formidable, c'est merveilleux. Notez s'il vous plaît la Genèse, chapitre 40, je crois verset 31. Lorsque vous commencez à louer le Seigneur au milieu de certains de vos combats, eh bien, vous posez le fondement de la victoire désirée. Et oui, c'est vrai, Donc, nous lisons, par exemple, dans Ésaïe au chapitre 60, verset 18, c'est bien ça. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, de dévastation et de ruine dans tes confins, mais tu appelleras tes murs salut et tes portes louange. Chers amis, cette glorieuse promesse de victoire est donnée à un peuple qui se lèvera et brillera dans la gloire du Seigneur lors des derniers jours. Ésaïe, chapitre 60, versets 1 et 2, contient la clé de la victoire pour ces jours-là, où le pays sera confronté à la violence et à la dévastation à ses frontières. Les nations ont besoin de se tourner vers le Seigneur et d'apporter leur louange à Dieu, et cela plus que jamais aujourd'hui. Il nous faut non seulement le louer, mais aussi vivre une vie qui lui soit une louange et non une honte et un déshonneur pour son saint nom. Nous avons l'apôtre Paul et Silas. Lorsque l'apôtre Paul et Silas ont été emprisonnés, ils se sont mis à louer l'Éternel et l'impact de leur louange fut si puissant qu'il provoqua un grand tremblement de terre secouant les fondements même de la prison et ouvrant ainsi toutes les portes et déliant les liens de chacun. Notez Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 et 26. La louange ouvrit non seulement les portes de la prison, mais elle a dégagé également les chaînes des bras et des jambes des prisonniers. Vous avez besoin de louer le Seigneur afin d'être délié de vos liens et de vos mauvaises habitudes. La louange vous délivrera des esprits démoniaques tels que l'alcool, la drogue, la nicotine, la luxure et de tout autre vice qui vous lie. Et là, je parle des problèmes charnels. Mettez-vous donc à louer le Seigneur dès maintenant et n'attendez pas d'être délivré pour commencer. Utilisez la louange comme stratégie de bataille. Louez avec sincérité, avec conviction et avec une foi véritable. Sinon, votre louange ne sera qu'un bavardage, pas plus. Votre louange vide, si elle est vide de tout sentiment véritable, eh bien, elle n'ira pas plus haut que le plafond. Dieu veut que votre vie entière soit une vie de louange. Le psalmiste dit au psaume, chapitre 34, verset 1, « Sa louange sera continuellement dans ma bouche. » La louange est puissante, car elle glorifie celui que nous aimons et que nous servons. Le psaume chapitre 50, verset 23, nous dit que celui qui offre pour sacrifice tes louanges me glorifie, et à celui qui veille sur ses voies, je ferai voir le salut de Dieu. Si votre marche, si elle plaît au Seigneur, vous verrez son salut. Il vous sauvera de toute situation négative et mauvaise. À quelle fréquence devriez-vous le louer? Eh bien, le psaume 71, 71, verset 8, nous dit « Que ma bouche soit remplie de tes louanges et de ta magnificence tout le jour. Si nous passons nos journées en louant l'Éternel, nous n'aurons pas le temps de converser de choses dont nous ne devrions pas parler. Oh, excusez-moi, je dis cela surtout pour moi. » Nous devons donc apprendre à vivre une vie de louange. Oui, quand j'ai dit nous devrions toute la journée louer le Seigneur, aujourd'hui, de nos jours, c'est pas possible. Mais je voulais dire par là, dans la pensée, à tout moment, entre le travail, entre deux exécutions que nous devons faire, nous pouvons dire « Merci Seigneur, je t'aime » et beaucoup d'autres choses. Nous devons donc apprendre à vivre une vie de louange. Le psalmiste dit « sept fois » donc « siebenmal », sept fois, le jour, je te loue à cause des ordonnances de ta justice. Siebenmal, sept fois. Dans la version allemande, il est dit « juste jugement ». C'est un juste jugement. Psaume 119, verset 164. Le chiffre 7, c'est le chiffre parfait. Nous devons donc louer le Seigneur chaque fois que nous en avons l'occasion. Il n'y a pas un calcul à faire, non. Mais chaque fois que ça nous est possible. Dieu désire avoir un peuple qui soit un peuple de louange. C'est pourquoi il a choisi Israël. Il leur a dit, dans le Deutéronome, au chapitre 26, versets 18 et 19, « Et l'Éternel t'a fait promettre aujourd'hui que tu seras pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, comme il t'a dit, et que tu garderas tous ses commandements pour qu'il te place très haut en louange et en renommée et en beauté au-dessus de toutes les nations qu'il a faites, et que tu seras un peuple saint, oui, un peuple consacré à l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a dit. » J'ai dit Deutéronome, chapitre 26, versets 18 et 19. En ces derniers temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, le début de la dispensation de jugement, adios, toute la grâce que nous avons vécue et que nous n'avons pas saisie souvent, que nous avons négligée, que nous avons, voire même, je ne sais pas trouver le mot en français, mais il y a un autre mot que négliger, c'est quand on méprise, voilà, j'ai trouvé le mot, mépriser. Alors en ces derniers temps, Dieu choisira un peuple qu'il appelle un peuple de louange. À moins d'apprendre à louer, Yahvé l'Éternel, et de savoir pourquoi nous devrions le louer, notre Sauveur et Seigneur, et Yahvé l'Éternel, notre Père Céleste. Nous ne pouvons pas être en harmonie avec cet appel élevé et saint qu'il place sur nos vies. L'appel n'est pas pour demain, simplement. Ou peut-être, si nous pensons, j'ai encore le temps, je suis jeune, on verra plus tard. Non, 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 non. L'appel n'est pas pour plus tard, il est pour aujourd'hui. Au moment où vous écoutez ce CD, maintenant, Dieu pose son doigt sur vous et vous appelle à rejoindre tous ses adorateurs. Acceptez cet appel, obéissez-lui, et vous verrez la gloire. Mais rejetez-le et vous connaîtrez la honte et l'échec. C'est pas moi qui vous le dis, vous verrez et vous trouverez dans la sainte parole que c'est vrai. Beaucoup disent aujourd'hui, « Oh oui, oui, je louerai le Seigneur, mais je le ferai silencieusement dans un coin caché. » Oui, c'est mieux que rien du tout, c'est vrai, c'est très bien, mais ce n'est pas tout à fait suffisant. Si vous avez l'occasion de ne pas être sous le joug de quelqu'un, mais que vous avez une certaine liberté, eh bien, dans certaines circonstances, le diable et ses armées ont besoin d'entendre votre voix. Oui, vous allez le troubler en louant le Seigneur. Le psaume chapitre 66, verset 8, nous dit « Peuple, bénissez notre Dieu et faites entendre la voix de sa louange. Dieu désire entendre votre voix. Il veut vous entendre le louer, tandis que le diable, eh bien oui, c'est vrai, croyez-le, il ne supporte pas d'entendre que vous louez le Seigneur. Alors, à qui allons-nous plaire? Allons-nous essayer de plaire à notre Père Céleste et à son Fils bien-aimé Jésus-Christ ou au diable et ses princes des démons? Lorsque vous louez le Seigneur, vous entrez réellement dans sa présence. Il ordonne, au psaume chapitre 100, verset 4, « Entrez dans ses portes avec action de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le !» Et selon la version allemande, « Soyez reconnaissants et bénissez son saint nom. » Lorsque je lis ce verset, que je le lise en français, en allemand ou en anglais, croyez-moi, la compréhension du sens profond est la même. Je me représente tous les enfants d'Israël qui vont monter au temple à Jérusalem, je me les représente pendant les grands jours de fête. Et là, ils louent Yahvé l'Éternel. Il vous accueillera et il vous donnera sa joie profonde et le réveil se manifestera dans votre âme et esprit. Au temps du réveil d'Ézéchias, ce dernier désigna des sacrificateurs et des lévites pour rendre grâce et pour louer aux portes des parvis de l'Éternel. 2 Chroniques chapitre 31 verset 2. Dieu désire que vous le louiez, que vous le louez, non seulement dans sa maison, dans l'église, mais aussi dans votre appartement, dans votre maison, là où vous habitez. En louant l'Éternel, vous transformerez votre maison en un temple où il demeurera avec vous. Dieu nous a sauvés du paganisme pour que nous puissions célébrer. En anglais, ils disent « rendre grâce à son saint nom » et de triompher. et mettre ainsi notre gloire à le louer. Psaume 106, verset 47. Il est donc important de louer Dieu face aux esprits mauvais qui, croyez-moi ou pas, vont exister dans les derniers jours des milliers de fois plus pires que de tout ce qu'on a connu. Le psalmiste dit souvent « Je te louerai devant les dieux ». Et c'est parfois difficile à comprendre pour certains. Pourquoi veut-il louer l'Éternel devant les dieux? Mais les dieux, ça peut être toutes sortes de choses. Hein, ça peut être les dieux, des milliers de dieux qui sont adorés aux Indes et ailleurs. Parce que ceux-ci représentent le plus souvent des esprits démoniaques et même des anges déchus. Lorsque nous célébrons l'Éternel face aux démons, nous sommes vraiment engagés dans un combat efficace à l'issue duquel se trouve la victoire. Nous avons la victoire par nous-mêmes, bien qu'il faut beaucoup de discipline et de volonté. Ça, c'est notre part. Souvenez-vous, ce n'est pas au Seigneur de faire toujours le premier pas. N'est-il pas le roi des rois, le seigneur des seigneurs? Non, non, non. Soyons un peu humbles. C'est à nous, c'est à moi de faire le premier pas. Voyez? Donc, si je fais tout ce que la Sainte Bible me demande, je pourrais mener un combat efficace, à l'issue duquel se trouvera la victoire par mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui a versé son sang précieux pour moi à la croix. Par son sang précieux, je me place sous son sang précieux et j'ai la victoire, pas par moi-même, mais par celui qui a versé son sang pour me procurer la victoire. Il existe un terrible esprit d'abattement sur le pays à l'heure actuelle qui est provoqué par l'activité démoniaque. Les gens sont abattus. Les gens, et j'en connais, ils ont plus de courage. Ils ont leurs bras qui leur tombent. Ils ont plus de motivation. Ils ont le blues et tout ce qui va avec ce mot-là. Ils n'en peuvent plus. Mais ce n'est pas parce que c'est par hasard. Non, non, non. Non, il n'y a pas de hasard là-dedans. C'est premièrement, il faut aussi, moi, faire le premier pas, avoir de la volonté et du zèle, rejeter tout ce qui peut m'attaquer dans ma sainteté, dans la morale profonde de mon être. Il faut que je fasse tout ce que je peux déjà moi-même, et ainsi le Saint-Esprit va faire la plus grande partie, celle que je ne peux pas. Mais on arrivera au bout. Il faut le vouloir et le désirer, et on arrivera. Satan est descendu, est-il dit, comme un lion rugissant, sachant que son temps est court. C'est pour ça qu'il met tout en œuvre, dans les derniers temps que nous vivons, cette dispensation. Eh bien, il va tout faire pour que la plus grande partie des chrétiens flanche et devienne rétrograde, voire même perdue pour toujours. Notez 1er épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Alors, il appelle l'ennemi ses démons les plus puissants pour combattre en première ligne contre tous les serviteurs qui ont même été moins de Dieu, qui ont même été loin de Dieu, donc des serviteurs très engagés. Quand nous voyons l'armée des Philistins qui nous entoure et que nous entendons les menaces furieuses de leur Goliath rugissant contre nous et blasphémant notre Dieu, il nous faut, comme l'a fait David, lui résister. Vous avez entendu ? C'est à nous de résister en face, en rendant sans crainte louange et honneur à notre Dieu et à sa grandeur. Peut-être était-ce la clé de la grandeur de David, car il a loué l'Éternel face à ce terrible Goliath. Pourquoi ne regardez-vous pas en face votre Goliath à vous, et ne commencez-vous pas à louer le Seigneur? Vous serez surpris, oui, surpris, de voir combien vous visez juste, et de même que Goliath, vous verrez votre ennemi tomber à vos pieds. Eh oui. L'armée entière d'Israël était dans la détresse. Il n'y avait pas un seul homme heureux parmi eux quand Goliath a mis au défi les armées du Dieu vivant. Saül a essayé de revêtir David de son armure, mais David savait qu'il avait un vêtement de louange qu'il avait reçu de l'Éternel alors qu'il gardait les brebis de son père sur les collines de Juda. Ce vêtement le protégerait contre tous les assauts de ce terrible Goliath et de sa grande et puissante épée. Alléluia. David descendit donc de la colline et, écoutez bien cela, en bondissant plein de confiance, pas en ayant les bras qui lui tombait, et en faisant une déprime épouvantable, et en étant obligé de prendre des remèdes pour enlever le maux de tête. Non, il était plein de confiance, parce qu'il était fortifié par la louange. Si vous êtes nourri et vêtu d'un vêtement de louange, vous aussi, vous serez apte à courir pour affronter votre ennemi. Bien sûr, vous direz, mais louez le Seigneur quand j'en ai marre de vivre, quand je suis abattu, quand j'en peux plus, etc., etc., et tous ces gémissements. Non, il faut réagir. Votre vêtement de louange vous donnera confiance et joie. Croyez-le ou pas. Si vous ne le croyez pas, vous êtes libre. Mais vous êtes aussi libre de le croire. Il est temps maintenant de revêtir ce vêtement de louange. Dieu dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires. Il m'a envoyé pour panser ceux pour aider, pour soutenir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, et pour consoler tous ceux qui mènent le deuil, pour mettre à, également pour mettre à donner à ceux de Sion qui mène le deuil, pour leur donner l'ornement au lieu de la cendre, pour leur donner l'huile de joie au lieu du deuil, pour leur donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'il soit appelé térébinthe de justice. La plantation même de l'Éternel pour qu'il puisse être glorifié. Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 3. Oui, louez l'Éternel. Quel jour de gloire et de victoire! Ôtez donc ce vêtement de deuil. Ôtez ce vêtement de plainte sans cesse, peut-être même de critique. Surtout d'apitoyement sur vous-même, en vous plaignant du matin au soir. Et vous dites, il y a de quoi de se plaindre. Mais tant que vous dites cela, vous en sortirez jamais. Et il faut revêtir le manteau de louange. Et c'est alors que vous ferez partie de l'armée des temps de la fin, élus et ointes pour prêcher de bonnes nouvelles aux débonnaires, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, pour ouvrir les portes des prisonniers et pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel. Vous ne pourrez jamais communiquer la joie tant que vous portez un vêtement de deuil. Mais le Seigneur n'a pas dit que vous devez le porter jusqu'à votre mort. Non, 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 c'est l'ennemi qui vous dit ça. C'est pas le Seigneur. Celui-ci, ainsi qu'un esprit d'abattement, cela appartient à la morgue et non pas à la maison de louange et de la victoire. Commencez à vous revêtir, s'il vous plaît, de louange afin d'être paré pour ce ministère glorieux. Peut-être avez-vous un CD avec des chants de gospel, par exemple, pas nécessairement, mais des chants qui sont imprégnés du Seigneur, voyez. Eh bien, écoutez-les et chantez s'il y a des paroles avec ce que vous entendez et louez le Seigneur. Dans Jérémie, chapitre 17, verset 26, il est dit « Et on viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem et du pays de Benjamin, même de la vallée et de la montagne et du midi, apportant des holocaustes et des sacrifices et des offrandes de gâteaux et de l'encens et apportant surtout des actions de grâce à la maison de l'Éternel. » L'auteur des Hébreux saisit cette révélation dans Hébreux chapitre 13, verset 15, où il est dit « Offrons donc sans cesse, pas once upon a time, à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire de le fruit des lèvres qui confesse son saint nom. » Vous allez me dire que je dis des choses qui sont impossibles à pratiquer et à réaliser. Ça, c'est vous qui le dites. Offrons sans cesse à Dieu, surtout quand on a un petit moment, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres, de mes lèvres, qui vont confesser ce saint nom. Dieu nous appelle à le louer continuellement. Psaume 34, verset 1. Cela ressemble parfois à un sacrifice quand vous vous sentez découragé ou déçu, ou qu'une tragédie vous est survenue. Mais c'est alors que votre sacrifice de louange sera le plus précieux et fructueux. Si vous attendez d'être heureux, même avant de louer l'Éternel, ça ce n'est pas un sacrifice de louange, je pense pas. Un sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte. Que le fruit de vos lèvres soit l'agneau, déposé sur l'autel avec reconnaissance et gratitude, et vous repartirez en vous réjouissant. Et vous verrez qu'il y aura la victoire. Ce qui fera la gloire du millénium, c'est que la louange remplira toute la terre. Notez Habakkuk, chapitre 3, verset 3. Si vous désirez la marque du royaume sur votre âme dès maintenant, alors louez dès cet instant le Seigneur. Même que vous êtes abattu, même que vous êtes déprimé, même que vous avez le bourdon et tout ce qui s'ensuit, commencez par la foi à dire merci Seigneur, à le louer. Merci Seigneur pour ton aide. Oh merci Jésus-Christ, sois loué, sois béni. Vous êtes formé de la poussière terrestre de ce monde, il est vrai. Pourquoi ne pas remplir votre propre petit monde à vous de la louange du millénium? Pourquoi pas? Dieu appelle toute sa création à le louer. Les yeux et la terre le loueront, les mers et tout ce qui se meut en elles. Psaume 69, verset 34. Les cieux célébreront tes merveilles éternelles. Psaume 89, verset 5. Veuillez noter, si vous avez l'occasion ou la possibilité, je vous en prie, veuillez noter et lire attentivement chez vous le psaume 148, versets 1 à 4, ensuite les versets 7 jusqu'au verset 13. La plus glorieuse de toutes les louanges provient de la vie et de la bouche des petits-enfants et des nourrissons. Jésus dit aux pharisiens qui critiquent la louange des enfants, tandis qu'il entrait à Jérusalem, monté sur un âne. Vous n'avez jamais lu? Vraiment jamais? C'est par la bouche des petits-enfants et de ceux qui t'aident, tu as établi ta louange. Saint Matthieu, chapitre 21, verset 16. Et c'est pourquoi nous devons enseigner aux petits-enfants à louer l'Éternel dès le berceau. C'est du reste magnifique de voir un bébé louer Dieu. Ça existe, mais de moins en moins, parce que on les élève maintenant selon le système humaniste de Satan, du futur antéchrist. Les pauvres et les indigents sont exhortés à louer l'Éternel, que le pauvre et le malheureux, indigne et indigent surtout, qu'il loue ton Saint-Nom. Psaume 74, verset 21. Voyez-vous, lorsque vous louez l'Éternel, Dieu commence à multiplier ce que vous avez. Vous serez étonné de ce qu'il peut faire. J'aimerais vous citer le témoignage de la fille d'une famille chrétienne, et il est plus que possible, dans les temps modernes dans lesquels nous vivons, où tout est discrédité, que la plupart d'entre vous vont dire « c'est des balibernes, ça n'existe pas, il faut être totalement cinglé, il faut demander d'être traité par des psychiatre et psychanalyste. Mais écoutez quand même, et nous sommes tous libres de rejeter ou d'accepter. Voici donc le témoignage de la fille d'une famille chrétienne. C'est elle qui parle. Lorsque j'avais environ 15 ans, mon père a perdu tout ce que nous avions et il a totalement fait faillite. Nous sommes devenus très pauvres. En ce temps-là, les gens étaient trop fiers pour demander de l'assistance. C'était considéré comme une honte. L'hiver approchait. Et la maison que nous avons louée était grande, vieille et pleine de courants d'air. Il y avait à peine assez d'argent pour la nourriture, sans parler du chauffage. Mon père et ma mère venaient d'entrer dans une église charismatique, après avoir été élevés strictement dans la communauté ménonite. Une des choses que cette nouvelle foi a apporté à leur vie fut la vérité au sujet de la dîme, ou si mes parents ont commencé à donner la dîme. Mon père a obtenu un travail comme gérant d'une ferme pour nous aider à survivre. Son salaire était de 35 dollars par mois. C'était évidemment pas aujourd'hui, il y a de ça plus de 90 ans. Et ce fut à partir de ce petit et maigre revenu qu'il a commencé à verser la dîme. Il s'inquiétait de savoir comment il soutiendrait notre petite famille de 3 enfants pendant l'hiver canadien qui approchait. Un jour, il se rendit dans la réserve de bûches et il a fait une réunion de louanges avec le Seigneur. Un tout petit peu de charbon était là, sur le sol de la remise. Il a demandé à Dieu d'être miséricordieux et de le multiplier. Et nous avons utilisé du charbon, croyez-le ou pas, chaque jour, les mois se sont écoulés, le printemps est arrivé et le temps s'est amélioré. Mon père s'est rendu à nouveau dans la remise pour regarder sa provision miraculeuse. Il y avait autant de charbon que à l'automne et nous en avions utilisé durant tout l'hiver. Dieu l'avait donc multiplié pour deux raisons. Premièrement, mon père avait obéi aux lois de la dîme due à Dieu. Deuxièmement, mon père et ma mère avaient loué le Seigneur chaque jour pour le miracle de la provision. La Bible est pleine de témoignages de victoires qui sont acquises par la louange. Prenons le temps d'en étudier quelques-unes. Il est important que nous les connaissions pour que notre foi puisse augmenter. Ce qui est fondé sur la sainte parole de Dieu est vraiment fiable. Il ne suffit pas de louer l'Éternel parce que quelqu'un vous le dit. Mais vous devez savoir, vous-même, que c'est la sainte parole de Dieu qui l'ordonne. David fut le plus grand, c'est vrai, homme de louange de toute l'histoire. C'est peut-être la raison pour laquelle, en dépit de ses péchés, ils étaient quand même parfois terribles, eh bien l'Éternel, savez-vous quel nom a donné l'Éternel à David? L'Éternel l'appela « un homme selon mon cœur ». Oh là là, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Supposons que votre mari vous dit à sa femme, « Tu es l'épouse de mon cœur. Oh, je t'aime chaque jour davantage. » C'est beau. L'Éternel l'appela un homme selon son cœur. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. Lorsque vous louez le Seigneur, eh bien vous vous approchez très près de lui. Car la Sainte Bible dit que l'Éternel demeure au milieu des louanges de son peuple. Psaume chapitre 22, verset 3. Cela signifie que Dieu vient vivre dans le cœur de celui qui le loue. Ne désirez-vous pas que Dieu vive dans votre cœur? Alors ouvrez-le lui, votre cœur, en le louant et en l'adorant, afin qu'une porte s'ouvre dans le mur de votre cœur et de votre esprit, et qu'il y entre pour vivre avec vous. Daniel, le prophète, était menacé d'exécution, ainsi que ses amis. Mais qu'a-t-il fait? Il alla seul devant Dieu, devant l'Éternel, pour rechercher sa face et avoir une révélation de ses secrets, afin que les vies de toutes ces personnalités soient sauvées. Et Dieu lui révéla le rêve oublié du roi Nebuchadnezzar, ou Nebuchodonosor. Et Daniel loua l'Éternel, Daniel loua l'Éternel et il dit, « Toi Dieu, Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue parce que tu m'as donné sagesse et puissance et que maintenant tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Nous avons fait connaître la chose que réclame le roi. » Daniel chapitre 2 verset 23. Et Daniel donna au roi un tel exemple de louange que plus tard, Nebuchadnezzar, alors délivré du mauvais esprit qui avait quand même changé sa nature en celle d'une bête sauvage, et l'avait conduit au désert durant 7 années, eh bien, Nebuchadnezzar a fini par louer l'Éternel. Il a dit, « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, je loue et j'exalte. » Et je magnifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vérité et les voies jugement, et qui est puissant pour abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Daniel chapitre 4, verset 37. Les personnes possédées, oh, il y en a de plus en plus, et contrôlées par le diable, détestent entendre quelqu'un louer Dieu. Commencez une fois à louer Dieu si vous êtes ou faites partie de ceux qui sont abattus et qui ont le bourdon, et vous verrez que ça va être dur, ça va être une véritable guerre. Et si vous dites d'avance, « Oh non, c'est pas pour moi, adios, je laisse tomber », alors là, il n'y a aucun espoir. Ce ne sera pas la faute de Dieu. Oh non, 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 non. N'allez pas lui mettre ça sur le dos. Voyez-vous, je répète. Les personnes qui sont possédées et qui sont contrôlées par le diable détestent entendre quelqu'un louer Dieu. Donc louer Dieu. Lorsque la méchante reine Athalie a entendu le bruit du peuple courant et louant Dieu, elle s'est rendue au temple pour voir ce qui s'y passait. La Sainte Bible dit que quand elle a vu le peuple debout louant Dieu dans sa maison, elle déchira ses vêtements et s'écria « conspiration, conspiration ». Selon la version allemande, il est dit « trahison, trahison ». 2 Rois chapitre 11 verset 13 et 14. Bien-aimés, c'est une trahison pour le diable quand vous commencez à louer le Seigneur. À leur retour à Jérusalem, après 70 années de captivité, les enfants d'Israël retrouvèrent leur ville sous les décombres, les murailles abattues, les palais des grands hommes détruits et le temple totalement en ruine, le temple en ruine. Et ce spectacle était vraiment totalement décourageant. Que ont-ils fait? Ont-ils abandonné? Ont-ils abandonné la partie et se sont-ils mis à se lamenter, à pleurnicher? Non. La Sainte Parole nous dit qu'ils se sont levés pour construire les fondements du temple, et cela dans un esprit de louange à Dieu, selon l'ordonnance de David, roi d'Israël. Il est même dit, et tout le peuple poussa des grands cris en louant l'Éternel, parce que on posait le fondement de la maison de l'Éternel. Et beaucoup d'entre les sacrificateurs, et d'entre les lévites, et d'entre les chefs des pères, les vieillards qui avaient vu la première maison, ils pleuraient à haute voix lorsque les fondements de cette maison ont été posés devant leurs yeux, et beaucoup ont poussé des cris de joie en élevant leur voix, et le peuple ne pouvait distinguer entre le bruit des cris de joie et la voix du peuple qui pleurait, car le peuple poussait de grands cris et le bruit s'étendit au loin. C'est écrit dans Esdras, le livre Esdras, chapitre 3, versets 11 à 13. Ce fut ce même cri qui attira la foule lorsque le Saint-Esprit descendit le jour de la Pentecôte. Nous avons perdu ce cri de louange car la louange et la gratitude ne sont plus dans nos cœurs. Devons-nous aller en captivité pour être capables d'apprécier tout ce que le Seigneur a fait pour nous? Si certains d'entre vous ont vu le film de Ben-Hur, eh bien, c'est magnifique de voir tout ce que Dieu a fait, le Dieu d'Israël, pour Ben-Hur, pour avoir la victoire finale, après avoir souffert horriblement. Il y a eu toute une série de miracles. À Bethléem, la nuit où le Sauveur est né, les cieux étaient remplis d'anges qui louaient joyeusement le Seigneur. Et soudain, il y avait là un ange, l'ange, une multitude de l'armée céleste. Une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et qui disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre paix et bienveillance envers les hommes. » C'est écrit dans Saint Luc chapitre 2 versets 13 et 14. Donc les anges nous donnent l'exemple, ils nous donnent l'exemple de ce que est la louange pour louer Dieu d'une manière céleste. La louange devrait être joyeuse et heureuse, spontanée surtout. Spontanée. Ça ne doit pas être une obligation. Ça ne doit pas être avec la tête baissée et avec la mort dans l'âme. Elle ne devrait pas être un acte réalisé uniquement par devoir ou par obligation, mais ça doit être un acte de notre libre choix, de notre libre volonté. Les bergers ne furent pas lents à apprendre comment louer Dieu. Après s'être rendus à la crèche, ils retournèrent glorifiant et louant Dieu de toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues, selon qu'il leur en avait été parlé, Saint Luc chapitre 2, verset 20. Après la résurrection du Seigneur et son ascension, nous pouvons lire ceci. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Saint Luc chapitre 24, versets 52 et 53. Pouvez-vous les imaginer louant le Seigneur dans le temple spirituellement mort et formaliste? Hein? On ne peut pas imaginer qu'ils étaient formalistes et spirituellement morts, qu'ils étaient contrôlés par ceux qui avaient crucifié le Seigneur Jésus. Parfois, c'est dans nos églises, plus ou moins mortes, il faut quand même le reconnaître, et plus ou moins formalistes, qu'il est le plus difficile de louer Dieu, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que c'est vrai que nous ne devons pas le faire. Car un gloire à Dieu, glory to God, qui retentit, cela a parfois le même effet qu'une bombe. Essayez une fois dans votre église de dire à haute voix, glory to God. Après l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, la vie de tous les croyants fut remplie d'une joie formidable. Le ciel était descendu parmi eux. Et c'est pourquoi le mouvement charismatique ne peut se comparer avec le réveil de l'Église primitive ou celui du début du XXe siècle. Un véritable réveil est dynamique. Il change les vies, il convertit, il transforme, il est glorieux et il apporte une joie et des louanges impossibles à retenir. Il suscite aussi la consécration et le don de sacrifice de soi dans la vie de celui, de celle qui en est vivifiée. L'Église primitive était réellement pleine d'ardeur pour Dieu. Ils vendaient leurs biens et tout ce qu'ils possédaient et les partageait entre les nécessiteux. Ils persévéraient d'un commun accord dans le temple, rompant le pain dans la maison, changeant le repas avec joie et simplicité de cœur. Ils mangeaient, excusez-moi, le repas avec joie. Vous avez bien compris, ils étaient en train de manger tranquillement le repas avec beaucoup de joie dans le cœur, avec beaucoup de simplicité, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple. Actes chapitre 2, versets 45 à 47. Et c'est donc étonnant que des milliers de gens ont été là sauvés. Car quand on loue le Seigneur, on attire les autres. Ce n'est pas en faisant une mine d'enterrement que je vais attirer quelqu'un. Pour le Seigneur, je dis bien, je n'ai pas dit pour aller, je ne dis pas la suite, j'ai dit pour le Seigneur. Et c'est pourquoi ceux qui louent sont des gens heureux. Personne n'est attiré vers quelqu'un qui est très triste et super malheureux. Si vous voulez être un gagneur d'âme, j'ai bien dit gagneur d'âme, j'ai pas dit gagneur pour mes plaisirs personnels, hein, vous avez compris. Alors si vous voulez être quelqu'un qui désire de gagner des âmes, femmes ou hommes, alors ayez la joie sur votre visage, votre cœur et esprit, parce que vous représentez le Seigneur. Vous attirerez les autres par votre joie, plus que par votre affliction et par vos nombreuses plaintes. Je pourrais me plaindre, j'ai voulu dire un vilain mot, salement mal, parfois au bas du dos, quelle horreur, et je ne peux pas marcher bien loin. Notez que j'ai un très grand âge. Mais mal ou pas mal, que parfois je dois serrer les dents, c'est vrai. Eh bien, quand même, je loue le Seigneur et il me rend heureux, malgré certaines douleurs désagréables. Mais il ne faut pas m'arrêter là-dessus. Il crée en nous un magnifique esprit de joie. Chers amis, pouvez-vous imaginer être transporté au temple tous les jours pendant 40 ans et de mendier jour après jour pour seulement quelques pièces afin de pouvoir manger votre repas du soir? Quelle existence pitoyable! S'il vous plaît, madame, une petite pièce, s'il vous plaît. Or un jour, un tel homme a été guéri par la parole de foi et par le pouvoir qu'exerçait Jésus-Christ dans la vie de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean, par ces deux serviteurs de Dieu, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Et lorsque le miracle de la guérison a touché son corps et qu'il a pu non seulement se tenir debout mais marcher, mais il n'avait pas 88 ans comme moi, vous l'avez compris, il est devenu fou de joie. Et en faisant un saut, il s'est tenu debout et il a marché. Et il est entré avec eux au temple, marchant et sautant et louant Dieu. Actes chapitre 3, verset 8. La louange, elle est contagieuse. Et quand le boiteux a commencé à louer Dieu, tous ceux qui l'avaient vu ont été remplis d'étonnement. Et depuis lors, nous louons Dieu avec cet homme. Chers amis, pour terminer cette étude, souvenez-vous que vous avez été prédestinés à la louange de la gloire de sa grâce. Pourquoi n'élevez-vous pas vos mains pour louer le Seigneur? Alors, pourquoi pas le faire maintenant? Qu'est-ce qui vous retient? Pourquoi pas? Essayez. Nous allons prier ensemble maintenant. Nous te louons, Père. Oui, nous te louons. Dieu incréé, insondable, indicible et incompréhensible pour tout être non régénéré, nous te louons, toi qui es reconnu par ton Fils éternel, qui par lui a annoncé le salut pour l'humanité et qui a été révélé et connu. Nous te louons, Dieu de tout l'univers, toi que le Fils reconnaît et qui révèle au Saint sa gloire, toi notre Père qui est reconnu par sa parole engendrée et a vu par les saints en lui. Nous te louons, ô Père donateur de l'immortalité, car tu es la source de la vie, la source de la lumière, tu es la source de toute grâce et de toute vérité, tu es celui qui aime les hommes, qui est l'ami des pauvres, qui se réconcilie avec tous et qui, par la visite de son Fils, attire tout à lui. Nous t'en prions, fais de nous des hommes et des femmes vivants, donne-nous l'esprit de lumière, que nous te reconnaissions, toi, le vrai, notre Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études, et à demain matin, pour la suite. Que le Seigneur vous bénisse, car il vous aime. Il aime ses enfants. Et, vous savez, faites-lui confiance en tout. Et vous verrez. Au revoir. À demain matin.